Designed by Apple in California.
Je dois mettre une chose. Le focus sur la Californie, j'ai pas compris. Autant ils avaient beaucoup insisté dessus dans la vidéo il y a 2-3 ans avec Johnny Ive et le bouquin et pourquoi on signe Design in California. Ils avaient tout fait toute une vidéo conceptuelle, un peu comme celle de l'intention, tu sais, dans le design. Mm-hmm. Et pourquoi cette signature avait autant de signification pour eux. Autant là, dans ce cas précis, je pense que c'est en filigrane, mais j'ai trouvé ça un peu gratuit.
Ma théorie, c'est que Tim Cook est très frustré par le télétravail, qu'il voulait absolument rouvrir l'Apple Park, et on sait par ailleurs qu'il était prévu que ce keynote de rentrée se déroule en présentiel. Ils ont été obligés de repousser la réouverture de l'Apple Park à janvier 2022. Et ma théorie, c'est qu'ils se sont dit, bah, quitte à devoir faire du télétravail, on va faire du télétravail jusqu'au bout et on va envoyer tout le monde aux quatre coins de la Californie et on va mettre en scène... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas uniquement la Californie, mais c'est... c'est intéressant parce que c'est pas la Californie, mais c'est la côte californienne qu'on parcourt du nord au sud, c'est pas l'intérieur des terres.
C'est vrai, ouais.
Ou très très peu avec le premier plan, mais ça va pas plus loin que ça. Et donc c'est aussi... non seulement quelque part, après une demi-douzaine de keynotes virtuels, ça change un peu la formule, parce que je pense qu'ils en ont aussi ras-le-bol quelque part. Et ça permet de jouer avec cette idée que, oui, le monde est rouvert, mais le monde est pas rouvert, et ça nous agace ou ça nous agace plus. Et puis c'est quand même un bon moyen, dans une période qui est un peu compliquée pour eux, notamment avec le mouvement Apple II ou avec les décisions antitrust et trucs comme ça, de rappeler que c'est aussi une société californienne, une société importante dans l'économie américaine et qu'ils ont quelque chose à dire là-dessus. Enfin, je sais pas. Je vois ça comme ça.
Oui, ça se tient. Mais j'avoue que je me posais la question juste avant que ça commence et j'aime assez de mon côté le format. J'aime bien parce que je regarde ça comme un film. Les sous-titres arrivent en même temps que ce qui se dit à l'écran, donc ce qui m'aide beaucoup pour la compréhension du discours. Et généralement, bon, sauf là, il n'y avait pas beaucoup d'humour, j'ai trouvé quand même. C'était un peu tendu. Enfin, pas tendu, mais...
Utilitariste.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Même la chanson du début est pas très enjouée, en fait. Et en vrai, elle est pas... Enfin, c'est une commande qui a été faite, j'imagine, pour l'occasion.
Je crois que c'est un vrai morceau de musique, je l'ai shazamé tout à l'heure.
Ah.
Je le mettrai dans la description du podcast.
Merci à toi. Mais ouais, enfin, je sais pas. J'aimais bien le format, en tout cas, par exemple, pour l'iPad M1, ce genre de keynote. Avec, on embrasse complètement le côté cinématographique, avec des plaisanteries, des moments forts, des transitions complètement folles. Là, il y en avait aussi, bien sûr, mais... Ça manquait de panache un petit peu, ça manquait de la virtuosité dont ils ont fait preuve auparavant.
On en avait parlé à la WWDC, mais évidemment, moi je le vis un peu différemment parce que je dois le couvrir en direct.
Ouais, bien sûr.
Je crois qu'à la WWDC, il y a eu une première rupture dans le format. C'est-à-dire que jusque-là, c'était le keynote Apple habituel, mais à distance. Et avec la WWDC, ils ont essayé de changer la manière dont ils construisent le fil narratif et où c'est un keynote beaucoup moins linéaire et quelque part un peu plus confus, mais j'ai trouvé assez intéressant la manière dont ils ont essayé, par exemple, de présenter iCloud comme une plateforme. Et là, dans ce keynote-là, hein, on voit, par exemple, ils ont présenté la puce A15 Bionic comme un produit à part entière. Et ça pose encore un problème de linéarité parce qu'ils parlent des performances de l'iPad mini sans pouvoir mentionner la puce parce que la puce va être présentée formellement plus loin.
Ouais.
Donc ils essayent encore d'expérimenter avec le format, mais d'abord je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que on s'éloigne définitivement de la recette de Jobs.
Oui.
Et on invente un truc qui est peut-être plus adapté à nos temps. Et en plus ils le font dans des circonstances exceptionnelles qui sont que c'est de toute manière pas un keynote en live. Donc, enfin, t'es Tim Cook, c'est compliqué de forcer ton naturel quand t'as pas le public en face de toi pour te renvoyer de l'énergie. Et donc c'est vrai que du coup il y a une artificialité qu'il n'y a pas quand il y a du monde dans la salle et que tu peux riffer avec la salle. Mais je trouve qu'ils s'en sortent pas mal quand même. Et ça passe aussi par les transitions, par la mise en scène, là, le retour du labo, c'est presque devenu un personnage, ce labo, quoi. Où on vient te parler, quand tu vois des Mac Pro sur roulette, on va te parler de Silicium, quoi.
Oui.
C'est vrai. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Ça pourrait très vite virer au clip publicitaire chiant. Et ça l'est pas. Et c'est dense sans être impossible à suivre. Je trouve que j'ai eu beaucoup plus de mal ces dernières années à suivre les keynotes de 2 heures, 2 heures et demie, en tant que journaliste, que là 1 heure et quart, où certes c'est dense et il y a beaucoup d'informations, mais la une, je l'ai publiée 1 demi-heure après la fin du keynote, quoi. Parce que c'est assez facile à suivre.
Ouais, tout est utile en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette, on recoupe beaucoup de choses un peu gratuites. Il y a encore déjà des interrogations sur ça, mais par rapport au format classique avec Schiller, tout ça, enfin tous les segments un peu attendus et un défilé très personnalisé en fait, enfin très identifié à certaines personnes dans ce sens-là. Là, on a plein de gens très différents qu'on revoit pas forcément d'une keynote à l'autre. Enfin, d'autres si, d'autres non. Enfin voilà, donc c'est assez riche. C'est un bel effort d'inclusivité, on peut dire. Oui, j'ai utilisé le mot, oui. Et ce qui m'intrigue toujours beaucoup quand même, c'est que pour la boîte qui, tu vois, quand je travaillais chez Apple, on m'avait dit dans le séminaire de recrutement, bah Apple, tu vois, c'est pas comme à la Fnac. À la Fnac, t'as un PC avec un descriptif de mégahertz, parce que à l'époque c'était les mégahertz et des gigaos et tout ça. Bon, voilà. Et là, tu t'arrives dans un magasin où le produit n'a pas d'étiquette. Il n'y a pas de spécification technique, ou pas beaucoup en tout cas. Et à chaque keynote, il y a quand même, depuis, j'ai l'impression quand même quelques temps, hein, c'est pas non plus tout récent. Une insistance sur certains chiffres très scientifiques, notamment sur la puce A15, avec son 15,8 millions de teraflops de ce que tu veux, qui parle, je pense, pas à grand monde en fait.
15 milliards de transistors, c'était ça?
Je crois que c'est ça, mais il parle aussi d'opérations à la seconde, enfin, c'est assez abstrait, tu vois ce que je veux dire?
Je suis pas d'accord.
Ouais?
Non, et je trouve qu'au contraire, ils font ça très bien. Si tu écoutes le segment sur l'iPad,
Ouais?
quand on te parle de puissance, on te parle pas de puissance en termes de teraflop. On te dit, il est X fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu. Parce que c'est ce qui compte. C'est un appareil qui va être vendu à un très grand public et notamment au monde de l'éducation. Est-ce que ce que ce monde-là veut savoir, c'est par rapport à ces saloperies de Chromebook, est-ce que ça va être agréable à utiliser et est-ce que ça va être fluide, est-ce que ça va être ouais, ça sympathique, agréable. Et par contre, quand on parle de l'iPhone 13 Pro Max qu'on te vend pour 1 800 € avec 1 téraoctet de stockage. Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est une petite somme. Et que le seul intérêt de ce téléphone-là par rapport à l'iPhone SE, c'est précisément qu'il a 15 milliards de transistors, 6 cores de circuit graphique ou 5 cores de circuit graphique et 6 cores de processeur et 3 capteurs photo qui ont tous des configurations différentes avec tous des objectifs différents avec des ouvertures, des machins, des distances focales, des trucs muches. Bah là.
Ça commence à faire beaucoup de différence, ça, quand même.
Oui, non, mais justement, mais là, t'as envie de savoir.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, au contraire, je trouve ça qu'ils font. Je trouve qu'ils font ça plutôt bien.
Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Enfin, ça pourrait facilement être plus complexe. Et ce qui m'a frappé, tu vois, c'est notamment le côté sur la photo. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pédagogie, globalement, enfin, d'effort pédagogique. Non seulement dans la capacité technique, parce qu'ils ont besoin aussi de prouver que, en gros, comment fonctionne, enfin, ils ont besoin d'expliquer comment fonctionne très rapidement un processeur, ce genre de choses. Bon, voilà. Et quand la M1 est sortie, par exemple, bah, c'était important d'avoir cette espèce de contexte. Et ensuite, même sur d'autres fonctions un peu redondantes, tu vois, l'appareil photo, on sait qu'il est toujours meilleur, tu vois, c'est quelque chose d'acquis, mais on ne sait pas forcément comment. Et la manière dont ils sont pris pour.
Et pourquoi?
Et pourquoi, exactement, ouais. Et la manière dont ils sont pris cette année, enfin, particulièrement cette année, je trouve, notamment avec, il y a les caractéristiques techniques, matérielles, donc l'ouverture sur les choses, là, on commence à comprendre un petit peu, mais aussi, ils ont fait ça de manière logicielle, avec les styles photographiques. Il y a une pédagogie, en fait, de la photo elle-même, tu vois.
T'avais compté les lunettes dans les invitations de WWDC. Moi, j'ai chronométré le keynote.
Chacun ses névroses.
Et donc, ils ont consacré 43% de la présentation de l'iPhone 13 et 57% de la présentation de l'iPhone 13 Pro aux fonctions photographiques et cinématographiques.
Ah ouais.
Donc, l'iPhone, c'est un appareil photo, point.
C'est très impressionnant ce qu'ils font avec la photo, cela dit. Enfin, la vidéo aussi, notamment.
Et on pourrait parler de la manière dont il réinvente subtilement la réalité et pourquoi c'est à la fois fascinant et terrifiant, mais...
Oui.
Et de la même manière qu'ils ont différentes modalités pour te parler de la puissance, ils ont différentes modalités pour te parler de la photographie et de la vidéo. Où on peut effectivement te parler des styles photographiques où c'est déjà pointu, hein, parce qu'il faut changer des curseurs, des choses comme ça, et ça influe directement sur la manière dont Smart HDR et Deep Fusion vont agir et vont prendre les données brutes et les transformer. Donc c'est quand même pas une opération neutre et techniquement c'est quand même déjà compliqué. On va te parler l'an dernier de ProRAW, cette année de ProRes, qui sont des choses mais qui volent à 36 km au-dessus de la tête de la plupart des gens.
Oui.
Mais en même temps, on va te montrer des clips qui sont des parodies de films que tout le monde a vus et où ça montre, alors, de manière un peu excessive. Parce que notamment dans la parodie de Knives Out, les effets de changement de plan, il y en a un peu beaucoup, un peu trop.
Oui, un tout petit peu, un tout petit
Mais ça
peu.
marche. Et en plus, c'est
Mais ça marche très bien.
et en plus, c'est honnête parce qu'on voit que parfois ça marche pas si bien que ça, parce que parfois c'est un peu lent, un peu tardif, ou au contraire, ça va.
Il y a un petit à-coup,
Donc en plus,
ouais.
c'est honnête. Ça te montre vraiment ce que toi tu pourrais faire. Donc t'as les deux modalités. T'as à la fois la modalité très technique. Parce que quelque part, le client, la personne qui achète un iPhone 13 Pro Max avec 1 Teraoctet de stockage à quasiment 2 000 € pour la photo, elle a besoin de savoir combien il y a d'éléments dans l'optique, à combien elle ouvre, c'est quoi
Bien
le
sûr.
pitch des photosites, et ceci et ceci et cela. Et le commun des mortels, non, il va être très content de savoir qu'il y a un mode cinématique et que pour faire les vidéos d'anniversaire de la petite dernière, il va pouvoir s'amuser à passer du gâteau à la tête de la gamine et de la tête de la gamine au gâteau, quoi. Donc c'est... J'aime bien le côté tout public, si tu veux.
Oui, de toute façon, il faut. Enfin, c'est impossible d'avoir l'attention de quelqu'un de manière. Sur une période aussi longue, de manière homogène. Donc, effectivement, il faut des moments pour tout le monde. C'est une bonne. C'est bien vu, ouais. Ça m'a quand même frappé le fait qu'on puisse changer cet effet de. Comment ils appellent ça? Rack.
Oui,
Focus
focus
rack?
rack ou focus pool.
Après coup.
Oui, mais c'est là où tu vois que c'est synthétique. Que si c'était uniquement au moment de la captation, alors ce serait effectivement quelque chose qui repose sur l'optique. Mais si tu peux le changer après coup, c'est que c'est complètement synthétique. Et donc, de la même manière, on en a déjà parlé ici, que les photos prises avec le mode nuit, c'est des fausses photos. Qu'elles inventent de l'information là où il n'y en a pas. Ou en tout cas...
Disons qu'elle a, elle a, enfin, elle a c'est une traduction, donc une trahison, on peut dire ça comme ça.
Il y a ça, et puis elles vont plus loin que tes facultés de perception.
Oui.
Or, c'est aussi dans la limite de tes facultés de perception que réside ta manière de comprendre le monde. Grande philosophie de comptoir.
Très, très beau, très beau.
Et là, c'est un peu pareil, quoi. Si je suis capable de manipuler après coup ce qui relève traditionnellement des capacités de l'optique. Et on sait, je veux dire, il y a des gens qui font des études longues pour savoir comment le glissement d'un plan, ça change le message de ton cadre et ça change aussi la manière dont le spectateur perçoit ce que tu es en train de raconter avec l'image. Si on est capable de changer ça après coup, on est capable de changer la vérité après coup. Je trouve ça... Enfin, encore une fois, je fais peut-être une psychose là-dessus, mais Apple et la réalité augmentée, Apple et la réalité. Apple qui... Enfin, viole les lois de la physique, quoi. Réinvente jusqu'aux lois de la physique, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, on en trouve. On n'est pas capable de faire du flou avec une optique, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on va le faire avec nos 16 milliards de transistors.
On avait dit 15.
Ouais, 15, pardon, ou 14, ou je sais plus combien. D'accord.
Ce serait intéressant peut-être de se pencher un jour, je dis pas forcément aujourd'hui, tu vois, mais sur le fait que, enfin, quel est le processus à l'œuvre? Est-ce que c'est une simple surcouche sur le réel? Ou est-ce que c'est une assimilation du réel, une déstructuration et restructuration du réel et redonner sur une autre forme? Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme le nugget de poulet chez McDo.
Et je pense que c'est la vraie question, parce que j'étais pas forcément mal à l'aise face à l'idée de surcouche du réel, qui a commencé il y a très longtemps, hein, parce que je me souviens,
Ah
il y a
oui.
bien une quinzaine d'années, Nokia qui faisait déjà des choses en réalité augmentée avec les cartes, et où notamment tu pouvais mettre ton téléphone devant toi et ça projetait ton itinéraire. J'étais relativement à l'aise avec ça. je suis moins à l'aise avec cette idée qu'on est effectivement capable de recomposer en temps réel le réel. Oui, en temps réel. Recomposer en temps réel ton environnement et où, si tu veux, la tangibilité de ton environnement, qui a ses limites. Enfin, on va pas refaire la philosophie du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais quand tu touches une table, qu'est-ce qui appartient à ta main, qu'est-ce qui appartient à la table. Mais
oh oui, ça va, Hegel, alors c'est bon. Hein.
Mais voilà, si on est capable de changer la perspective, si on est capable de transfigurer tes capacités sensorielles, où est-ce que s'arrête la réalité, où est-ce que commence la fiction? Et surtout, j'y pense aussi en pensant au commun et en pensant aux notions d'abonnement, aux notions de service. Enfin, est-ce que quand tu dis la réalité designed by Apple in California, moi je veux bien, mais il y a un abonnement pour accéder à la réalité? Une fois qu'on a transformé tes sens, faut continuer à payer un abonnement pour avoir le droit aux mêmes perceptions?
Apple Sense Plus.
Donc je trouve ça, ouais. Enfin, ça me pose des questions, quoi. Comme ce qu'ils font avec la micro-localisation, quoi. Ou, enfin, c'est quand même drôle de se dire que une des annonces d'hier, c'était on est maintenant capable de localiser votre portefeuille, quoi. Enfin, votre porte-carte. Je trouve ça, c'est un côté complètement inconséquent, complètement innocent, mais en même temps, je trouve que c'est incroyablement révélateur de l'approche d'Apple.
Oui, on incarne vraiment le. Enfin, tout devient informatique, quoi.
Et tout est au service de cette réalité parallèle. C'est-à-dire que si, de la même manière. Parce que le positionnement absolu et la micro-localisation, c'est quand même un élément important de la réalité augmentée. Et si même ton porte-carte, c'est quelque chose qui peut être localisé avec une forte précision et qui a un intérêt quelque part à le placer dans un espace virtuel, on va loin, quoi. D'un point de vue conception de cette nouvelle réalité, je trouve que c'est quand même assez révélateur. Ouais. En tout cas, les ambitions d'Apple.
Oui, oui, c'est vrai. Et en creux, ça indique aussi, enfin, ça confirme encore plus, si jamais on doutait encore de la chose, que si on veut s'extraire de l'écosystème, il faut tout jeter, quoi. Absolument tout.
Oui, oui, je crois pas que ce soit aujourd'hui si facile que ça de dire. Enfin, je me pose la question par exemple avec l'Apple Watch, quoi, où il y a un côté, j'ai pas forcément envie de remplacer mon Apple Watch, mais en même temps, tu te dis, mince, si j'arrête l'Apple Watch, j'ai plus le déverrouillage automatique de l'iPhone et du Mac, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, et c'est quand même vachement moins drôle.
Ah, c'est ça, c'est que tu peux pas faire de demi-mesure. C'est un peu. Tu peux pas servir de maître en même temps, tu vois. La réalité et Apple.
Apple Watch qui n'a donc pas de bord plat, bravo les rumeurs.
Oui, déjà petit, hein, bravo les rumeurs. Enfin, elles avaient raison sur des points et faux sur d'autres. Hein. Sur l'Apple Watch, c'était faux. Sur le design de l'iPhone, c'était vrai pour le coup. Même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de. Hein, c'est une itération relativement safe, quoi. Remarque que j'avais jamais entendu parler du notch réduit. Ça, c'était une surprise pour moi.
C'est parce que tu ne suis pas assez des rumeurs.
Ah, donc j'ai un bon filtre. Je suis content. Ok. J'aime beaucoup une chose sur l'Apple Watch qui est que la partie la plus durable, c'est les bracelets quand même.
Ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que c'est le parfait inverse de la montre traditionnelle. Où tu gardes la tête et tu changes le bracelet. Et tu changes le bracelet régulièrement. Et alors que c'est très dur de le changer sur une montre traditionnelle.
Oui. Et c'est l'inverse de tous les autres produits Apple parce que l'iPhone, là, il est un peu plus épais. On peut plus mettre les mêmes housses que sur le 12.
Oui.
Donc c'est au contraire, tu vois, tout la tête, enfin c'est assez logique dans un sens, et c'est un produit qui fait presque tâche à ce niveau-là, que depuis le début les bracelets soient tous compatibles. Ouais.
Et on en avait parlé toi et moi, mais ce qui me gênait dans cette rumeur et pourquoi j'y croyais pas, d'abord parce que les types qui la profèrent sont des abrutis patentés qui n'ont aucune source en vérité, mais qui jettent des spaghettis sur le mur en se disant peut-être qu'il y en a trois qui vont coller et à force de répéter l'exercice peut-être que des gens encore plus stupides que nous vont commencer à penser qu'on a des informations et donc vont se mettre à nous envoyer des infos et même si ça marche pas, en attendant on leur pique leur argent et leur attention via les publicités sur YouTube. Bref.
Voilà. Donc, alors, c'était le rhabillage pour la période automne-hiver 2021. Merci beaucoup.
Mais surtout, ce qui me gênait dans cette affaire, c'est que l'Apple Watch, c'est le seul produit chez Apple qui se conforme au corps. C'est-à-dire que tous les autres produits sont d'une manière ou d'une autre désagréables.
Agressifs, ouais.
C'est-à-dire que parfois, l'interface de macOS ou d'iOS, c'est une atteinte au bon goût visuel. Souvent, enfin, l'iPhone avec les bords carrés, là, je trouve qu'il est assez désagréable à tenir en main. Et l'Apple Watch, c'est l'antithèse de ça. C'est le truc qui se conforme à ton poignet. Et grande révélation du podcast, votre poignet n'est pas carré.
Ça serait bien qu'on ait des effets sonores, tu sais, pour ponctuer ce genre de moment.
Donc cette rumeur m'a toujours semblé bien dissonante, et non seulement il n'y a pas des bords carrés, mais les bords sont encore plus arrondis que ce qu'ils étaient jusque-là. Et quelque part, pour rejoindre ce que tu dis sur les bracelets, la forme du boîtier est définie par la forme de la tâche. Et donc il y a quelque chose d'irréductible. Ça n'empêche pas, à mon avis, que la forme de ce boîtier continue à travailler et que s'ils ont envie de trouver un moyen de faire des bords plats avec des arrondis quelque part, ils le feront. Hein. Il y a des montres avec des bords assez carrés, hein. Dont ma montre favorite. Mais quelque part, c'est la forme de la tâche, qui elle-même est d'ailleurs très ronde,
oui.
Qui informe et qui définit le reste. Et c'est peut-être le seul produit dans la gamme qui est contraint de cette manière. Alors que tous les autres produits sont pas contraints, quoi. Le meilleur exemple de ça, c'est l'Apple TV, où l'Apple TV, la logique voudrait qu'elle ait une forme relativement traditionnelle pour rentrer dans un meuble 19 pouces ou pour pouvoir se coller derrière la télé. Et ou non. On est Apple, donc on fait ce qu'on veut, et donc ce truc va pendouiller au bout de son fil et va pouvoir s'empiler sur rien d'autre. Et là, ils ont pas le choix, quoi. Même les AirPods, hein, c'est marrant, hein, qui pourtant doivent aller dans ton oreille, mais parce qu'il y a tellement de formes d'oreilles différentes, ça va parfaitement dans aucune oreille.
Oui.
Et où là, quelque part, avec l'Apple Watch, ils ont quelque chose de tellement précieux d'un point de vue ergonomique que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie d'y toucher. Ou en tout cas, le jour où ils y toucheront, ils le feront de manière très considérée, et à mon avis, on sera reparti pour un keynote avec une demi-heure d'explication très détaillée sur le pourquoi du comment.
Il y a moyen. Et je crois que ce serait très intéressant à regarder. J'avoue que moi, j'avais la première génération d'Apple Watch, donc c'était très lent, même dès la sortie, et même après les mises à jour successives. Je la porte plus depuis maintenant un certain temps, et j'ai jamais changé.
Est-ce que tu aurais envie d'acheter une Apple Watch série 7 ? Pourquoi ?
C'est une très bonne question, petit, hein, merci de l'avoir posée. Le fait est qu'à chaque fois qu'on arrive en fin de cycle d'une Apple Watch existante, je me pose la question et je me dis, mais ouais, je vais acheter la prochaine, celle qui sort, c'est sûr. Et je vois la prochaine et j'ai pas envie de l'acheter. En fait, c'est cher, je trouve. Et ça me fait chier. Comment dire ? Je crois que j'ai pas trop envie d'avoir ce rapport-là avec mon poignet. Et j'aime bien celle de Weezings, mais pareil, c'est un peu rush. Mais je pense que si je craque sur une montre connectée, ce sera celle de Weezings.
Je vois ce que tu veux dire. Le côté, il se trouve qu'avant l'Apple Watch, j'avais des montres et j'en ai encore et je me suis pas arrêté d'acheter des montres. Et c'est vrai que le côté ordinateur au poignet m'agace un peu.
Je sais que j'utiliserai. Ça, c'est pas un problème.
Oui, mais quelque part, c'est le problème.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en plus, là, il y a ce Fitness Plus qui sort en France. Enfin, il y a plein d'occasions de l'utiliser, plein de raisons tout à fait logiques. Mais déjà, j'ai pas envie de faire de sport. Et ensuite, c'est... Non, mais je sais que je devrais, mais j'ai pas envie. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et c'est une relation de subordination qui fait que tu peux pas l'enlever un jour. Et ça me fait profondément chier, tu vois. J'ai envie d'être un peu comme... mes lunettes, tu vois, de temps en temps, je les enlève, tu vois. Parce que j'ai une myopie qui est légère. Et donc, j'ai cette chance-là. J'ai pas envie de volontairement me porter quelque chose que je peux pas retirer facilement sans conséquence, quoi.
Mais, et c'est à mon avis la différence avec les lunettes connectées, ce rapport de subordination, il est très faible.
Ouais.
C'est-à-dire que les conséquences de porter ta montre, elles sont très légères. C'est, t'as pas fermé tes anneaux ce jour-là, tu perds un trophée. Enfin, c'est pas la fin du monde, quoi. Par contre, le jour où les lunettes sont connectées, et moi qui peux pas enlever mes lunettes parce que sinon j'y vois pas grand-chose, là, il y a un rapport de subordination qui est complet. C'est-à-dire que si j'ai pas mes lunettes sur le nez, je ne peux pas voir. Et donc là, les conséquences sont graves. Et à mon avis, c'est quand même la différence entre la montre et le reste.
Je pense qu'il y a aussi un phénomène qui est à l'œuvre de mon côté, c'est que ce que j'ai pas ne crée pas de manque. un peu comme le fait que je vis à Paris, j'ai pas conscience qu'on peut vivre mieux ailleurs, tu vois. Donc je suis content d'être à Paris.
De l'autre côté du périph', quand même. Hein.
Je ferme mes écoutilles. Exactement, de l'autre côté du périph. Mais merci de le souligner, je te déteste. Et du coup, c'est cette espèce, tu vois, d'œillères que je me mets qui sont que bah, je sais très bien que, évidemment, il y a des choses, des endroits où on est près de la mer, tout ça, c'est bien. Mais ce que je vois pas ne me manque pas. Et je crois que ça joue aussi quand même pas mal sur le fait que, du coup, je porte plus d'Apple Watch depuis longtemps. J'ai pas envie de. Enfin, le fait de basculer sur une Apple Watch à nouveau n'est pas immédiat ni automatique.
Mais ce qui m'interroge quand même sur l'Apple Watch, c'est que. Et d'ailleurs, c'était très incarné dans la manière dont elle a été présentée. On revient à ce qu'on disait au début. C'est. Cette montre n'a plus qu'un seul usage, c'est le sport.
C'était vraiment très manifeste, oui.
Et moi, ça m'embête. Enfin, ça m'embête. Non, quelque part, ça va me résoudre la question. Qui est que je porte une montre. Certes, je fais un peu de sport. Mais si je porte une montre, c'est d'abord et avant tout pour avoir l'heure. Et quelque part, c'est pas le meilleur outil pour avoir l'heure.
Oui, tout à fait. La preuve, c'est que chaque spot publicitaire le disait à la toute fin.
Oui.
C'est... Ah oui, au passage. Par erreur, on s'est rendu compte que ça donnait toujours l'heure. Bon, bah désolé, mais bon, voilà, vous avez ça en plus.
Et donc, quelque part, si c'est juste un bracelet pour faire du sport et qui donne pas l'heure tellement bien que ça... Bah, ça pose la question de, bah, dans ce cas, à quoi bon le porter tout le temps? Et ou dans ce cas, bah, je le porte que quand je veux faire du sport. Et dans ce cas, à quoi bon acheter, effectivement, un truc qui vaut, 400, 500, 600, 700, 800 euros, quoi? Est-ce que, la montre de Weezings dans un tout autre registre ou, une bête montre Garmin à 200 balles fait pas aussi bien le job?
Ou le bracelet Xiaomi à 30 balles?
Ouais, enfin, quand même pas, mais, est-ce qu'une autre proposition sportive ferait pas aussi bien le job, voire mieux, parce que ce serait un appareil plus spécifique que l'Apple Watch, et par ailleurs, bah, pour avoir l'heure, une simple montre. Et où c'est là où quand même le changement de raison d'être de ce produit, qui est très clair du point de vue d'Apple et qui est très bien expliqué, est peut-être en train de... Enfin, toi, t'as résolu le problème quelque part. Mais n'est pas en train, moi, de me résoudre le problème. Et oui, en fait, ils sont en train de me faire sortir de la cible de l'Apple Watch.
Oui, c'est assez intéressant. Il y a un push, presque un putsch du sport. Les deux termes accolés aujourd'hui sont très à la mode, dictature sanitaire. Mais à force de voir tous ces coachs souriants, transpirant, en train de dire « Mais venez faire du sport, ça donnera toutes les réponses à votre avis. » J'ai une sorte de recul réflexe devant cette panacée, tu vois. Ça me sidère un petit peu, notamment tout ce qui est évidemment du domaine de la méditation. Alors, m'exaspère au plus haut point, mais toute cette religion du sport.
Ah, je savais qu'on y viendrait.
Ça m'a trigger, je suis désolé, j'ai été triggered, voilà, je l'admets, j'ai été triggered. Non mais, c'est... Je pense pas que... Enfin, c'est très prescripteur, tu vois. Apple n'a pas n'a aucune légitimité à... Ils peuvent très bien donner des indicateurs de surveillance, de suivi corporel, si tu veux, mais encourager telle ou telle chose, ne serait-ce quelque chose d'aussi simple que l'activité physique, mais ça va aussi dans la pleine conscience, ça va aussi dans ce que je devrais mettre dans les applications, ça va aussi dans comment je devrais appeler les gens, ça commence à être un peu beaucoup. Et évidemment, c'est un contrat que tu passes quand tu prends les produits, que tu souscris au service. Mais merde, quoi.
Ouais, mais t'oublies un truc dans ta réflexion.
Ah.
C'est californien, donc c'est bien.
Ouh, jingle. Non, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je me demandais si t'allais parler de la méditation.
Ça m'a un peu exaspéré. Oh là là, j'ai plus les termes. Ça m'a un peu exaspéré. Un tantinet, ça va, juste un peu, mais... Déjà, tu trouves pas que la voix du coach est très irritante? Mais toutes les voix américaines sont un peu irritantes en même temps. Et
ouais, je pense que c'est quelque part de c'est un impensé en toi qui est en train de remonter.
Ouais, je pense aussi, effectivement. Ouais, t'as raison. Je devrais méditer là-dessus en pleine conscience.
Non, sur le plan théorique, parce que j'ai jamais utilisé Fitness Plus, parce que tout simplement ce qui est pas disponible ici, mais je trouve leur approche. Je trouve le parti pris holistique de leur approche assez intéressant. C'est-à-dire, on est dans une vision du bien-être, qui est à la fois le bien-être mental, avec les limitations de l'exercice de la méditation guidée, mais avec avec les bénéfices connus, reconnus et validés scientifiquement de cet exercice. Non mais je connais ton problème avec la méditation guidée, mais par ailleurs elle a un intérêt démontré. Et donc on a cette partie psychique, mentale du bien-être et la partie physique, mais qui quelque part les deux se répondent parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau utilisent aussi la méditation à des fins, enfin pour informer leur pratique et préparer leur corps. Et enfin tout le monde connaît, et on l'a vu pendant les confinements, hein, tout le monde connaît l'impact, pour utiliser ce mot absurde, de la pratique physique sur la santé mentale. Enfin,
oui.
Pour sortir du funk que j'ai depuis plusieurs années, il a quand même fallu que je me remette sur un vélo, quoi. Et où plus je fais du vélo, mieux je me porte, et moins je fais du vélo, plus je suis dépressif, quoi. Donc je trouve le holisme de leur approche dans Fitness Plus assez intrigant. Mais on revient à ce que tu disais sur le côté... Enfin, c'est comme quand tu mets le doigt dans un engrenage. Une fois que t'as mis le doigt dans un engrenage, t'es sûr que ça va aller jusqu'à l'épaule. Pour que ça marche, il faut avoir une Apple Watch. Il faut avoir un écran sur lequel projeter, donc un iPhone, un iPad ou un Apple TV connecté à un téléviseur. Et c'est... Alors que c'est un service qui pourrait, justement parce qu'il a cette vision holistique, qui pourrait élargir tes horizons, en fait, c'est un service qui compresse encore la bulle et qui t'enferme encore un peu plus dans leur écosystème.
Oui, tout à fait.
Je trouve ce paradoxe vraiment drôle. Quoi.
Oui, c'est très intéressant. Il y a deux choses que je voudrais ajouter à ça. C'est que la première, évidemment, je ressens ça de mon côté en tant que baptou fragile comme une prescription. Évidemment, ça n'allait pas forcément. Je précise aussi que c'est très probablement une interprétation de mon côté parce que je me sens un peu coupable au fond de ne pas faire de sport ni plus, enfin, sur deux choses. J'ai pas la force d'esprit nécessaire pour m'en foutre. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que y a une déviation de choses tout à fait bénéfiques et positives au service de la technologie. Et le cercle s'entretient comme ça, comme tu dis, une sorte de bulle. Dans une vie normale, sans écran ni smartphone, une activité physique est tout à fait saine et indiquée, bien sûr. Mais le faire avec des téléphones et des écrans et des télévisions et tout, peut-être aussi te donnant tout l'aspect bénéfique de la chose, de l'activité, t'entretient dans ton addiction aux écrans. Et du coup, il y a une espèce de double entendre ici, un petit peu. On a évidemment rien sans rien, tu vois, mais on prend les intérêts d'une chose et on les met au service d'un autre intérêt encore différent.
Mais c'est le danger... Désolé d'insister sur le design by Apple in California, mais c'est le danger de cette prétention sociétale. Et on en a encore parlé la semaine dernière, mais c'est... C'est une approche intégriste quelque part. C'est ne peut plus y avoir un moment sans que tu sois d'une manière ou d'une autre dans un rapport avec l'écosystème Apple. Et donc toute ton expérience de vie passe par une médiation par l'écosystème Apple. Ouais. Et donc Apple a cette prétention de devenir le médiateur entre toi et la réalité.
En fait, Apple est ni plus ni moins que l'État-providence.
Mais oui, j'avais écrit sur Apple comme entité supracapitalistique, quoi. C'est supra-étatique, quoi. C'est au bout d'un moment, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État parce que tu vis dans le monde Apple, il n'y a plus de capitalisme parce que de toute manière tu loues tes produits et tes services et il y a pas de concurrence, il y a même pas de prétention à vouloir faire de la publicité parce que t'es dans l'écosystème, donc à quoi bon, tu vas jamais en sortir. Il y a ce risque. Il y a à la fois c'est joli, les gadgets sont sympas, l'appareil photo est super et c'est quand même cool de bouger un peu. Mais il y a ce risque, clairement.
Ce qui confirme encore une fois ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'Apple, c'est le Vatican.
Mais tu disais ça comme une plaisanterie, mais je crois que t'as touché un truc. Tim Cook qui est plongé dans le noir et qui est le seul qui est incarné dans ce keynote et qui distribue quelque part, il fait un geste du bras et magiquement les lois de la physique sont abolies et on se déplace instantanément dans l'espace et dans le temps et je distribue les rôles et tout revient toujours à moi.
Ne ratez pas le prochain épisode, Tim Cook est l'Antéchrist. Au revoir. Ha ha ha.